Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir l'émission Profession philosophe, enregistrée avec la philosophe allemande Caroline Emke en septembre 2018. Profession philosophe, car oui, la philosophie est aussi un métier. Aujourd'hui, l'émission a lieu en compagnie de la philosophe allemande Caroline Emke. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bonjour à Bernard Mongiante qui est à vos côtés pour assurer la traduction.
Bonjour.
Caroline Emke, le on est impersonnel délibérément, vous présente comme philosophe, journaliste, grand reporter de guerre. Comment vous présentez-vous?
Auteur.
Non pas philosophe.
Nein, das klingt ein bisschen hochtrabend. Ich habe Philosophie studiert, aber ich
oui,
bin Autorin.
Ça me paraît un peu surdimensionné, disons. J'ai étudié la philosophie, mais je me considère comme auteur.
La philosophie est-elle un métier pour vous?
Ja, also natürlich.
Oui, bien sûr.
Ich würde nicht als Titel Philosophin sagen.
Je ne revendique pas le titre de philosophe.
Aber natürlich ist es das, was mich durchdrungen hat.
C'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a marqué.
Seit ich Schülerin war, über das Studium hindurch.
Depuis ma scolarité, mes études.
Es ist eine Formation des Denkens.
C'est une formation à la pensée.
Die nicht aufhört.
Qui ne cesse jamais.
Comment êtes-vous venu à la philosophie?
Ich hatte in der Schule schon Philosophie.
J'avais déjà des cours de philo à l'école.
Man konnte im Gymnasium wählen zwischen Religionsunterricht und Philosophie.
Au lycée, on pouvait choisir entre le cours de religion et philosophie.
Und ich hatte einen ganz, ganz wunderbaren Philosophielehrer.
Et j'avais un prof de philo formidable.
Ungeheuer engagiert war.
Qui était très, très engagé.
Streng.
Très strict.
Aber so passioniert,
dass tellement passionné,
ansteckend war,
que c'était contagieux.
Und das ist geblieben.
Et c'est resté.
Vous vous souvenez de ce qui vous a plu à ce moment-là?
Ich glaube, die Gleichzeitigkeit von Konkretion und Abstraktion.
C'était la simultanéité entre le concret et l'abstrait.
Die Gleichzeitigkeit von dem Beschreiben von Situationen, dem Beschreiben von Erfahrungen.
La simultanéité entre la description des situations, la description des expériences.
Ja, also konkreten Entscheidungssituationen,
des situations
in denen
de décision concrète,
jeder Mensch befinden kann.
Dans lesquelles chacun de nous
und
peut se trouver.
Suchen nach Strukturen, nach Logik,
et
nach
aussi
Mechaniken.
Et la quête de structure, de logique, de mécanisme.
Und ich glaube, dass mich genau diese Gleichzeitigkeit damals schon fasziniert hat.
C'est vraiment cette simultanéité qui m'a fasciné à l'époque.
Bis heute geblieben ist.
Qui est restée jusqu'à aujourd'hui.
Und das heißt nicht, dass mir nicht die Erzählungen und Mythen.
Ça ne veut pas dire que
des religieuses
les mythes et des religions me soient étrangères, mais c'est vraiment ça qui m'a fasciné avec la philosophie.
Vous dites que c'est son aspect concret qui vous a fasciné. On fait souvent le reproche inverse à la philosophie d'être trop coupée du monde et trop abstrait.
Ja, nein, also das sagt immer nur jemand, der das nie vermittelt bekommen hat.
C'est les gens qui n'ont jamais eu accès à la philosophie qui disent ça, qui ne l'a pas transmise.
Sondern es waren immer Übersetzungsleistungen. Und zwar
ce sont toujours comme des traductions.
Aus der Wirklichkeit, aus konkreten Erfahrungen.
C'est partir de la réalité concrète, de la réalité
immédiate, Bildern,
y compris d'images concrètes, d'analogies, pour le traduire en normes, en abstraction, en règles,
aber auch rückwärts,
mais aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, on peut faire le chemin inverse. Par exemple, des philosophes du droit comme Klaus Günther, par exemple, c'est ce qu'ils appelleraient des discours d'usage. C'est-à-dire, de traduire à partir de la norme vers l'expérience.
Permanente Übersetzungsleistung,
donc c'était une traduction permanente, en quelque sorte. On peut pas le voir à la radio, mais dès que j'en parle, je rayonne.
Donc la philosophie serait une affaire de traduction.
Oui, oui, tout à fait.
Permanente, wechselseitige Übersetzung.
Traduction dans les deux sens, oui. Sans cesse.
Est-ce que vous vous souvenez du premier texte ou du premier auteur philosophe qui vous a donné envie d'aller plus loin?
Ich glaube, der erste Satz,
je crois que la première phrase
begann, ist,
avec laquelle j'ai commencé,
Menschen immer schon zur Philosophie gebracht oder dass das bei der Philosophie ums Staunen
ging? Oui, c'est l'étonnement qui a toujours amené les hommes vers la philosophie.
Aber ich weiß sehr genau, dass das, ich glaube, das erste wirkliche, der erste Text, der erste Philosoph und das erste Beispiel war das Höhlengleichnis von Platon.
Mais je crois que le premier texte, c'était le mythe de la caverne de Platon, bien sûr.
Vous vous souvenez pourquoi?
Warum wir das gemacht haben? Ich glaube einerseits, weil es also einfach eine sehr frühe, also historisch, ideengeschichtlich.
D'une part, historiquement, c'est très tôt dans l'histoire de la philosophie, d'une part.
Früh, wir haben allerdings auch die Vorsokratiker und Heraklit auch schon in der Schule gelesen, aber ich glaube begonnen.
Déjà à l'école, on lisait les Héraclites et les Présocratiques, mais mon premier souvenir vraiment après cela, c'est le mythe de la caverne.
Pour faire votre portrait philosophique, Caroline Hemke, on va apprendre à vous découvrir aussi en vous écoutant tout au long de cet art. Vous venez de nous raconter votre rencontre avec la philosophie. On va entendre des sons et certaines personnes vont vous poser des questions, des personnes qui font aussi partie de l'histoire de la philosophie. En voici un premier son, une voix de quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Je vous laisse la reconnaître, l'écouter, vous nous direz ensuite qui c'est.
You can take a radical position and say open borders. Well, you know, there are days when I think that that's the only defensible solution.
On peut adopter une attitude radicale et dire on ouvre les frontières. Vous savez, il y a des jours où je pense que c'est la seule solution défendable. Mais mon argument contre l'ouverture des frontières est que je ne crois pas qu'on puisse avoir des politiques vraiment démocratiques sans aucune sorte de frontières. Pour moi, il y a une différence entre limites et frontières. Les frontières sont des zones militarisées et dangereuses pour les gens. Franchir une frontière, ce n'est pas comme franchir une limite. Nous franchissons des limites dans notre vie tout le temps. Vous savez, quand on passe d'un environnement de travail à un autre, d'un quartier à un autre, d'un âge de la vie à un autre. Mais les limites d'un État sont ses frontières. Elles sont militarisées, elles sont protégées par la police, par la violence. Le passage d'une frontière est toujours vu comme criminel, sauf si vous avez les bons papiers. Alors il faudrait peut-être penser de cette façon. Mais est-ce que c'est possible de décriminaliser tout ça?
Caroline Hemke, quelle est la voix que nous venons d'entendre?
Das ist Sheila Ben Habib.
C'est Sheila Ben Habib.
Sehr, sehr schön, dass Sie das hier einspielen, muss ich sagen.
Oui, c'est très bien que vous ayez pu passer ça ici.
Ich komme wieder in diese Sendung. Das ist meine Doktormutter.
Oui, c'est elle qui a supervisé mon doctorat. J'ai étudié avec elle.
Ich habe nicht nur bei ihr studiert, ich habe auch von ihr gelernt.
Oui, je n'ai pas seulement étudié avec elle, j'ai beaucoup appris d'elle.
Das ist noch etwas anderes.
Ce qui est autre chose.
Und natürlich hat sie eine ganze Reihe von Themen und auch Traditionslinien.
Elle a abordé un grand nombre de thèmes et de traditions dans ses propres travaux. Qui me sont très proches aussi, l'école de Francfort, la théorie critique, le rapport à Hannah Arendt, qui est très fort chez Sheila Ben Habib, la théorie du discours.
Mais je pense aussi que vielstimmige in der eigenen Biographie.
Je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses justes et cohérentes dans sa biographie.
Zu verschiedenen Kontexten und Ländern und Sprachen ist etwas, was Sheila Ben Habib eben.
Le rapport avec des cultures et des pays différents, c'est quelque chose qui est très important pour elle et ce qu'elle a beaucoup travaillé, qui est très important pour moi aussi.
Dans l'extrait qu'on a entendu, elle fait la distinction cruciale entre des frontières et des limites. Ce thème-là, Caroline Hemke, se trouve dans tout votre travail, dont deux ouvrages sont disponibles en français, hein, « Contre la haine, plaidoyer pour l'impur » dont vous étiez venu parler à ce micro l'an dernier, et celui qui vient d'être traduit en français, « Notre désir », qui est une sorte d'histoire personnelle de votre trajectoire philosophique, mais pas que, mais aussi des trajectoires de votre désir, et dans laquelle le motif de la frontière, de la division, de la limite est sans cesse exploré.
Ja, das ist richtig. Es gibt in der Tat oui, sind die Fragen der Schwellen, der Grenzen.
De fait, la question des limites et des frontières.
Instrumente des Einschließens oder Ausschließens.
Les instruments de l'inclusion ou de l'exclusion.
Des dazugehörig erklärens und nicht dazugehörig erklärens.
De déclarer quelqu'un comme faisant partie du collectif ou non.
Normen, die die einen als akzeptabel und die anderen.
Ou des normes qui sont acceptables
inakzeptabel machen. Das zieht sich
on retrouve ça dans tous les textes. Et dans le nouveau livre, Notre Désir,
il
s'agit moins de questions de nation et de culture,
über die Fragen des Begehrens.
Mais beaucoup plus de la question du désir.
Le désir, d'ailleurs, étant le désir corporel sur lequel vous revenez beaucoup, que le désir même de la pensée, en fait, puisqu'on parle du métier même de philosophe, c'est le désir est à la base de la philosophie.
Ja, ich glaube, Begehren, wie übrigens auch der Glaube und die Liebe.
Je crois que le désir, de même d'ailleurs que la croyance et l'amour,
ist unverfügbar.
Ne sont pas des choses dont on peut disposer à sa guise.
Es ist etwas, das man nicht unter Kontrolle hat.
Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler.
Man kann nicht beschließen, jemanden nicht mehr zu begehren. Und man
on ne peut pas décider de ne plus désirer quelqu'un.
So
et on, pas plus qu'on peut décider de désirer quelqu'un.
Kann, gläubig zu sein,
personne ne peut décider d'être croyant
nicht mehr gläubig
ou de ne plus être croyant.
Insofern sind das natürlich besonders faszinierende Fragen einerseits.
Donc ce sont des questions tout à fait fascinantes parce que d'un côté,
kann,
comment est-ce qu'on est livré pieds et poings liés à ça?
Aber man ist auch besonders verwundbar.
Mais on est aussi très vulnérable.
Besonders schutzlos.
Et sans protection.
Wenn es ein Begehren gibt, also
lorsqu'il y a un désir, désir de croire, désir d'aimer,
dass man sich nicht aussucht.
Parce qu'on est vulnérable, parce qu'on
aber
ne peut pas choisir,
nicht.
Et en même temps, on y éprouve du plaisir.
Le désir est comme un défi lancé à la philosophie, comme la haine, qui était votre précédent objet.
Ja, wobei, bei der Philosophie gibt es selten Momente, wo ich
oui,
nicht
sauf qu'en philosophie, il y a peu de moments où on ne désire pas.
Le désir, tout le temps.
On désire tout le temps en philosophie, oui.
Vous désirez tout le temps en philosophie, en tout cas, si on en croit à votre livre. On va rentrer d'une certaine manière dans votre univers, dans votre tête, pour essayer de comprendre les concepts qui vous accompagnent de manière plus précise. À la lecture de vos ouvrages et surtout du dernier, on découvre, Caroline Hemke, que de votre tête, on ne trouve pas tant des voix de philosophes, peut-être certains, on va en entendre encore, que des musiciens. Du coup, finalement, vous dites que c'est la musique qui vous a éveillé à votre désir. Cette phrase est très forte, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un autre corps, c'est la musique qui vous a fait prendre conscience de la singularité de votre désir. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est ce que je raconte dans le livre, effectivement. La découverte de la musique en tant que langage musical. Il ne s'agit pas simplement d'écouter, mais de pénétrer les structures de la musique, arriver à les comprendre. C'est cela qui m'a montré qu'il n'y a pas une seule norme, qu'il n'y a pas un seul motif, mais que ce qui est excitant et vivant et passionnant dans la musique, c'est la transformation d'un motif. La façon dont un motif est retravaillé, se transforme, interprété différemment. Et lorsque soi-même, dans son désir, on ne correspond pas à la norme, il s'agit de trouver le moyen de se libérer de ça.
Et
c'est très important qu'on vous explique
absolut entscheidend und existentiell positiv sein.
Voilà, que la façon d'interpréter différemment la norme peut être d'une importance vitale.
Puisque vous aimez être concrète et que vous louez dans la philosophie sa capacité à dire les choses, soyons-le, quand vous dites le désir ne correspond pas à la norme, vous faites référence à ce que vous décrivez dans votre livre, des types de désirs qui sont d'ordre homosexuel et qui ne correspondent pas à la majorité.
Yeah.
Oui, de fait, dans le livre, il s'agit sans cesse de situations concrètes dans lesquelles on fait la constatation où on constate concrètement qu'on ne fait pas partie du reste du groupe, qu'on ne correspond pas aux normes ou que les règles ne nous correspondent pas.
Dass es ausgesprochen schwer ist, das eigene homosexuelle
Begehren pour aller un peu plus loin, qu'il est très difficile de découvrir un désir homosexuel, même pas de le vivre, mais déjà de le comprendre.
Wenn es dafür keine Begriffe oder Bilder oder Vorlagen oder Muster gibt.
Il est très difficile de le comprendre lorsqu'il n'existe pas de concept, d'image et de modèle pour ça.
Et au-delà du désir homosexuel, c'est le cas de toute forme de désir qui correspond très rarement à une norme.
Ja, und auch, es wird einem selten davon erzählt.
Also, oui, et puis on nous en parle rarement.
Alle Bücher, die ich in der Schule gelesen habe,
tous les livres que j'ai lus à l'école,
ohne über Homosexualität zu reden.
Et même, nous avons lu même Thomas Mann sans qu'on nous parle d'homosexualité.
Also es war sozusagen einfach ein Nichtort.
C'était un non-lieu, un non-concept.
Une espèce, von der man wusste, dass sie existierte,
une espèce dont on sait qu'elle existe, mais ça s'arrête là.
Es geht nicht darum, ob man sich schämt,
c'est pas question de savoir si on a honte d'être ceci ou cela.
Ob man überhaupt auf die Idee kommt,
mais tout simplement, est-ce qu'on a simplement l'idée qu'on peut désirer de cette façon-là?
Und es ist viel existenzieller.
Et c'est beaucoup plus existentiel.
Philosophisch viel komplizierter.
Et beaucoup plus compliqué sur le plan philosophique. C'est pas juste une question politique.
Ob wir, um etwas wünschen zu können, man wissen muss, dass es das überhaupt gibt.
Oui, il s'agit de savoir si pour désirer quelque chose, il faut déjà savoir que ça existe, ce qu'on pourrait désirer.
Das ist bei Homosexualität richtig schwierig.
Et ça, c'est très difficile sur le, pour ce qui est de l'homosexualité, par exemple.
Et vous pensez que le désir peut se transmettre? Peut-on transmettre? On transmet le goût de la philosophie, on enseigne, transmet.
Also nicht in dem Sinne, dass, also das ist lustig, weil das fürchten ja immer die Homophoben.
Oui, ça c'est très drôle parce que c'est précisément ce que craignent les homophobes.
Oder die Rassisten.
Ou les racistes.
Ja, die denken immer,
ils pensent toujours que s'ils voient une femme voilée,
sehen,
s'ils voient une femme voilée,
werden sie plötzlich auch unterdrückt.
Oh, ja, ja, oder, ils se sentent opprimés.
Oder wenn man in der Schule über Homosexualität spricht,
si on...
plötzlich alle Kinder
homosexuell. Oui, si on parle d'homosexualité à l'école, ça y est, tous les enfants vont devenir homosexuels.
Das funktioniert natürlich nicht, denn dann hätte ich auch
ça marche jamais comme ça, sinon moi je serais devenu hétéro par exemple.
Also, das ist keine Ansteckung. Das
non, il n'y a pas de contagion.
Das ist so ein biopolitisches Konzept.
Ça, c'est un concept biopolitique,
que
ça, ça se transmettrait comme par des bacilles.
Aber ich glaube, was ich, um es etwas ernsthafter zu antworten, aber.
Mais pour être un peu plus sérieuse.
Natürlich lässt sich das Nachdenken darüber, wie Wünsche überhaupt hergestellt werden,
oui,
sozial, kulturell,
on peut bien sûr réfléchir
religieux,
pour savoir
Bilder
comment les désirs sont sociale, produits sur le plan social, culturel, esthétique.
Darüber lässt sich natürlich nachdenken, aber es bezieht sich dann eben nicht nur.
C'est une réflexion à mener, mais ça ne concerne pas simplement les gens qui ne correspondent pas à la norme, mais aussi ceux qui correspondent à la norme.
Transmettre le désir, c'est aussi donner le goût de s'éveiller à son propre désir, transmettre la possibilité de dire « je » lorsqu'on désire. Et dans votre cas, c'est entre autres ce genre de choses qui vous a éveillé à votre désir. Je vois que les concertos brandebourgeois de Bach vous font autant sourire que la philosophie Caroline Hemke. C'est de là que tout vient pour vous?
Oui, bien sûr.
Also es ist, es kommt, das, wenn ich das höre, kommt schon, das haben Sie natürlich auch beabsichtigt.
Oui, dès que je l'écoute, et vous l'avez fait à dessein, bien entendu.
Kommt das Glücksgefühl.
C'est ce sentiment de bonheur revient, ce sentiment de bonheur de l'enfance revient très fort.
Musik funktioniert ja häufig wie so ein Tagebuch.
Ja, la musique fonctionne souvent comme un journal.
Ohne dass man es aufschreiben muss.
Un journal que l'on n'aurait pas besoin d'écrire.
Erinnert, in dem man war, als man die Musik gehört hat.
Nous ramène à des situations dans lesquelles on était quand on a entendu cette musique.
Ist eben in der Tat, also dieser Bach und die brandenburgischen Konzerte.
Pour moi, Bach et les concertos brandebourgeois.
Das erste Werk.
C'est la première œuvre que nous avons vraiment étudiée à l'école.
Ich würde sagen, es war so ein bisschen wie die Mohrrübe, die der Lehrer uns hingehalten hat.
C'était un petit peu la carotte que le professeur nous.
Um uns reinzulocken.
Voilà, utilisée pour nous attirer vers la musique.
Und insofern funktioniert es, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen.
Et donc ça fonctionne à différents niveaux pour moi.
Eben dieses Glücksmoment, dieses Sentimentale.
Déjà ce moment de bonheur, cet aspect sentimental qui nous ramène à l'enfance.
Aber natürlich auch sofort, dass man sich erinnert,
mais aussi tout de suite le fait de se rappeler comment on a appris ce qu'est le métier de compositeur, le métier de la musique.
Das Handwerk des einen musikalischen Text lesens,
ce qui consiste à déchiffrer un texte musical, par exemple aussi.
Des Suchens nach einzelnen Puzzleteilen, wie sie
la recherche des différents éléments musicaux dans la structure d'un morceau.
Und auch dieser analytische Teil,
et ce travail d'analyse, c'est un grand bonheur.
Et pourtant, vous n'êtes pas devenue, votre métier n'est pas celui de musicienne, mais bien d'écrivaine, d'auteur.
Ja, das ist dumm gelaufen.
Et oui, ça s'est mal terminé, en fait.
C'est définitif?
Ja, nee, das funktioniert. Also ich würde immer noch sehr, sehr gerne Kartenabreißerin in der Philharmonie.
Oui, j'aimerais beaucoup être ouvreuse à la Philharmonie, par exemple.
Aber ich habe jetzt gerade, aber das ist ganz neu, mir ist angeboten worden, ob ich im
Mais
Radio.
On vient de me proposer très récemment à la radio de présenter une émission musicale.
Ja, das wäre Kindheitstraum. Das wäre
besonders schön. Un de mes rêves d'enfant, ça serait super.
Nicht, dass ich schon weiß, wie das geht, aber
pas du tout, je sais pas du tout comment ça pourrait se faire, mais j'adorerais ça, ouais.
Félicitations. Dans votre panthéon musical, on trouve aussi ça. Difficile de parler de musique, Caroline Emke, de trouver les mots pour décrire ce que fait une musique. Est-ce que vous arrivez à nous dire pourquoi ce morceau que je vous laisse nous présenter vous a tant marqué?
Ja, in der Tat, es ist, glaube ich, wirklich schwer, über Musik zu sprechen.
C'est vrai, c'est très difficile de parler de musique.
Das ist jetzt Shostakovich.
Il s'agit de Shostakovich, en l'occurrence. La musique de chambre.
Streichquartett.
Quatuor à cordes de Shostakovich.
Und ich glaube, bei Shostakovich sind es ganz viele Momente, die es zunächst einmal nur beim Hören.
Chez Shostakovich, il y a beaucoup de moments qui, dès la première écoute, sans aucun prérequis, sans aucun savoir, sans connaître les controverses historiques, mais c'est déjà une musique qui vous prend immédiatement.
Et pour moi, gerade bei Shostakovich, sind es eben auch häufig die Bezüge, die Zitationen zu seiner eigenen Musik.
Chez Shostakovich, pour moi, ce qui est très intéressant, c'est déjà les citations de sa propre musique ou les références à la musique de Bach.
Und das heißt, es gibt für mich bei Shostakovich.
Et pour moi, chez Shostakovich,
so eine
il y a toujours une certaine profondeur de chant. Quand on l'écoute, il y a une sorte d'aspect tridimensionnel.
C'est-à-dire
qu'il nous ramène à l'histoire de la musique et de sa musique.
Für mich, das beeindruckende,
et ce qui m'impressionne en particulier,
c'est le
fait de pouvoir reconnaître des structures très classiques et très connues et des éléments harmoniques qui d'un coup nous surprennent.
Und es ist eine intellektuelle und eine emotionale Überraschung.
C'est une surprise à la fois musicale et intellectuelle.
Est-ce que vous séparez complètement la musique de la philosophie ou est-ce que la philosophie n'a pas elle aussi sa musique, son rythme, ses structures répétitives? De même que la musique a peut-être sa pensée.
Da muss ich erstmal drüber nachdenken.
Là, il faut que je commence par réfléchir. Là, oui.
Nein, ich würde sagen, das ist ein. Also natürlich kann ich auch mit philosophischen Begriffen oder ästhetischer Theorie an Musik herantreten.
Oui, je peux aussi aborder la musique avec des concepts philosophiques ou des réflexions théoriques.
Mais andere Wirkungsweise hat.
Mais la musique a une toute autre forme d'action. Il y a un aspect très direct dans la musique.
Wenn ich jetzt noch was, darf ich noch was sagen? Darf ich noch was zu Shostakovich sagen?
Je peux dire encore quelque chose sur Shostakovich?
Weil
Ce qui est intéressant chez lui, c'est que pour moi, la rencontre avec Shostakovich, c'était d'abord le compositeur que j'ai d'abord perçu comme une figure historique. Et je l'ai découvert en tant que tel quand j'étais au lycée.
Und sozusagen die Kontroversen um die Frage, war diese Musik angepasst?
Et la controverse autour de savoir si est-ce que cette musique était en quelque sorte une musique officielle ou pas?
Sich selber mit ihrem Werk auch comment dann wiederum politischen Erwartungen verhalten?
Comment un compositeur se comporte face aux exigences politiques de son temps?
Ist mir erstmals bei Shostakovich sozusagen als Frage
aufgekommen. De Shostakovich que je me suis posé ces questions pour la première fois.
Und ja, also das bei Shostakovich ist für mich zumindest zum ersten Mal so eine Dimension noch dazu gekommen, dass man diese Figur sich einfach noch.
Voilà, pour moi c'était pour Shostakovich une dimension supplémentaire que j'ai perçue.
Die politischen Kontroversen um die Musik selbst.
Voilà, les controverses politiques autour de la musique elle-même. Oui.
De manière beaucoup moins intellectuelle mais peut-être beaucoup plus engagée, on trouve aussi dans votre tête comme influence musicale ceci.
Ah oui, c'est de mieux en mieux ici.
Voilà où on passe de Bach à Shostakovich et enfin à Bronski, Caroline Emke. C'est sur France Culture, les chemins de la philosophie. C'est à cause de vous et tout est cohérent en réalité. Pourquoi Bronski Beat et pourquoi cette chanson qui s'appelle quand même Why? Pourquoi?
Bronski Beat war zu meiner Zeit die erste Band.
À mon époque, c'était le premier groupe
die sich sehr explizit, mit homosexualité
qui s'est penché de façon explicite sur l'homosexualité, qui en parlait ouvertement et qui est intervenu de façon politique. À l'époque, c'était Age of Consent, c'est-à-dire l'âge du consentement, qui était un débat en Allemagne à l'époque. L'âge de la maturité sexuelle, dont on discutait beaucoup en Allemagne.
Und, insofern war das eigentlich, also mindestens für mich, dann eine Entdeckung. Also es gab eine ganze
Pour moi, c'était une découverte.
Schwulen oder homosexuellen Musikern.
Il y avait beaucoup de musiciens, d'artistes homosexuels, mais qui ne parlaient jamais de ce sujet.
Ich habe auch Bronski Beat gehört, lustigerweise, auf einem Konzert.
Et je les ai entendus en concert d'ailleurs, Bronski Beat.
Das ist jetzt nicht normalerweise die Musik, die ich jetzt so unbedingt gerne hörte.
C'est pas vraiment ma musique de chevet en général, mais.
War wild.
Mais c'était vraiment bien, ouais.
Mais c'était plus que du plaisir esthétique, si je vous comprends bien. Il y avait aussi une forme de revendication.
Sicherlich auch ein Ausdruck, also sehr viel auch von dem eigenen Zorn.
Oui, c'était aussi l'expression pour une bonne part de notre propre colère.
Verzagtheit von der Wut, das ist sicherlich auch eine Musik,
une colère qu'on retrouve dans cette musique qui qui nous a donné une possibilité d'articuler ces sentiments pour lesquels on n'avait aucun lieu.
Wobei man sagen muss, als ich das gehört habe,
mais il faut dire que quand j'ai entendu ça, je ne m'étais pas encore découverte.
On a entendu quelques-unes de vos musiques fétiches qui comptent tant pour vous. Voici maintenant quelques voix de philosophes, vous nous direz lesquelles ont compté pour vous. Et puis eux-mêmes d'ailleurs vont vous poser des questions, écoutez.
Je voudrais moi aussi poser des questions. Qu'est-ce que je fais au juste quand je fais ou quand j'espère faire de la philosophie? Et est-ce qu'on a quelque chose à se dire en fonction de cela?
C'est la voix de Gilles Deleuze qui veut lui aussi poser des questions, dit-il. Hein. C'était une conférence à la FEMIS où il s'interroge sur l'acte de création. Il se demande, mais avoir une idée en philosophie, est-ce la même chose qu'avoir une idée au cinéma? Il se dit, qu'est-ce que c'est qu'au fond que la philosophie est la réponse à cette question nous permettra de savoir si nous avons quelque chose à nous dire. Est-ce que vous avez, Caroline Emke, quelque chose à dire, à Deleuze en particulier?
Ja, ich muss erst mal überlegen, ob Also was die Frage der Philosophie sozusagen ist.
Il faut d'abord que je réfléchisse à cette question. Qu'est-ce que la philosophie?
Wahrscheinlich ist die Philosophie dasjenige, das nie aufhört, sich die Frage zu stellen, was die Philosophie ist.
Et probablement la philosophie, c'est ce qui permet d'arrêter de se poser la question, qu'est-ce que la philosophie?
Und ich glaube auch im Kern ist wahrscheinlich der Modus oder das Genre des Philosophen einerseits dieses Staunende, das ist vielleicht die
je crois qu'au cœur de tout ça, il y a ce moment de l'étonnement.
Das Zweifelnde.
Okay,
das kann dann unterschiedliche Formen der Frage annehmen, ob man
Form la plus constructive de questionnement
fragt, aber,
et la question du doute.
Ich glaube, meine wäre immer die des Staunens.
Pour moi, au fond, c'est quand même la question de l'étonnement.
La question de Deleuze en appelle une autre, et votre réponse également. Vous dire, c'est une question d'étonnement, mais surtout faire de la philosophie, c'est ne plus se demander à quoi ça sert. Je vous propose qu'on envisage la philosophie cette fois-ci comme une forme de savoir-faire, vraiment dans la dimension la plus pratique, non plus une définition abstraite, mais une définition matérielle, qu'on entre dans l'atelier du philosophe. On y entendrait par exemple celui-ci.
La philosophie n'est pas un ustensile. Quand on voit un ustensile biscornu, comme dans les tableaux surréalistes, une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc., une chaise à s'asseoir, mais la philosophie, à quoi ça peut servir?
C'est la question que pose Vladimir Jankélévitch. À quoi sert la philosophie? C'est pas un ustensile, c'est pas un outil. Vous l'avez bien dit, hein, finalement, vaut mieux ne pas demander à quoi ça sert. Faire de la philosophie, c'est ne pas demander à quoi ça sert. Pourtant, le philosophe a bien des outils, n'est-ce pas, Caroline Emke?
Des Philosophen.
Ja, in der Werkstatt des Philosophen, glaube ich, gibt es zunächst einmal.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'atelier du philosophe?
Ein Unbehagen, vielleicht.
D'abord un malaise, peut-être.
Ein Hadern,
quelque chose qui coince, un obstacle.
Irgendwie wie ein Stein im Schuh, wie so ein kleiner Kieselstein im Schuh, der einen nicht richtig
comme un petit caillou dans la chaussure qui permet pas de marcher tout à fait librement.
Und der Kieselstein kann ein Phänomen der Wirklichkeit sein.
Ce petit caillou, ça peut être un phénomène dans la réalité.
Ein soziales Phänomen.
Ça peut être un phénomène social.
Es kann ein Begriff sein,
ça peut être un concept, ça peut être une pratique,
ça
peut être un comportement. Et je crois que très souvent, ça commence avec une dissonance, vraiment un malaise.
Et puis le Versuch, dass man dem Ding erstmal einen Namen gibt und damit ist es noch nicht besser gemacht, aber
et après on commence d'abord par essayer de donner un nom à cette chose-là. On n'est pas beaucoup plus avancé, mais
manchmal ist es wie Rumpelstilzchen, wenn es einen Namen hat, kann es nicht mehr gefährlich sein.
Voilà, mais c'est la première des choses, c'est déjà de nommer les choses et c'est comme dans le conte de Grimm, Rumpelstilzchen, le nain tracassant, c'est dès qu'on peut nommer une chose, elle n'est plus dangereuse.
Ça veut dire que dans votre atelier de philosophe, Caroline Emke, le premier outil, ce sont les mots, les noms.
Oui, j'aimerais bien que ce soit comme ça, mais je ne peux pas vraiment le dire. Mais au début, à la racine de tout, il y a une sorte de murmure. Quelque chose qu'on ne peut pas encore dire, articuler précisément. Et on doit trouver une forme pour s'approcher des phénomènes. Et pour moi, l'écriture, c'est un instrument qui m'aide à préciser des questionnements. Et je l'espère, à parvenir à cette traduction entre le concret, réciproque entre le concret et l'abstrait. Mais de façon très, très concrète, j'ai besoin d'un mur avec un tableau, des petits papiers que je peux coller. Mais si vous voulez vraiment savoir
comme
des choses pratiques...
Comme les espions, en fait, comme dans les séries d'espionnage, le mur avec les papiers et les fils qui relient les individus aux autres.
Und dann gibt's Oberbegriffe und
après,
dann
gibt's
Beispiele.
Il y a les concepts directeurs, puis des exemples. les différentes lignes que je peux tracer. Et certains sont des thèses, d'autres des références. C'est comme le cinéma, c'est vrai. Mais c'est moins bien fait quand même.
Et c'est plus difficile de trouver le coupable, bien souvent, c'est pas aussi simple, ce n'est pas une seule personne. Et est-ce que vous travaillez différemment selon que vous écriviez un livre de philosophie ou un texte plus littéraire ou dans votre activité de journaliste, puisque vous êtes aussi journaliste? Est-ce que le travail est le même?
Non, le travail est très différent. Lorsqu'il s'agit de reportages, il s'agit de donner l'image d'autres personnes, d'autres expériences.
Natürlich Zeugenschaft abzuleisten.
Oui, de donner témoignage.
Und da geht es unglaublich stark darum, ob es eigentlich stimmt.
Et là, le plus important, c'est est-ce que c'est vrai ce que j'écris?
Ist das richtig?
Est-ce que c'est juste?
Ist das angemessen?
Est-ce que c'est à la mesure de ce que je veux décrire?
Und dann auch nochmal, wie lassen sich Erfahrungen aus extremen Situationen,
et au-delà de ça, comment peut-on traiter les situations extrêmes, violences extrêmes, par exemple, les situations dans la bande de Gaza ou en Irak ou en Haïti? Comment peut-on les traduire de façon à ce qu'elles soient compréhensibles pour des gens qui n'ont jamais eu de telles expériences extrêmes?
Und trotzdem sie bereithalten für oder das Zulassen von der Vorstellung von etwas, das Schmerzen bereiten wird, das Elend.
Est-ce qu'on peut laisser ouvert un espace où on peut s'imaginer que ce sont des choses très douloureuses?
Und das heißt, bei Reportagen ist die Last der Verantwortung.
Et pour les reportages, le poids de la responsabilité est énorme.
Et pas pour le philosophe.
Nein, also Philosophin will ich auch, dass es stimmt.
Ah, oui, en philosophie, bien sûr, je veux aussi que ce soit juste et exact.
Aber es ist nicht, dass mir jemand anderes etwas anvertraut hat.
Mais c'est pas la même chose, c'est pas quelqu'un d'autre qui m'a confié quelque chose.
Ich mitnehmen muss.
Un quelque chose que je dois emporter.
Sicher sozusagen in einen anderen Kontext, in eine andere Sprache
bringen. Et apporter intact à bon port dans un autre pays.
Und natürlich bei Menschen, deren die permanent die Erfahrung machen, dass sie negiert werden, dass
et quand on a affaire à des gens qui font sans arrêt l'expérience d'être niés, chassés de chez eux,
werden,
de torturer, violés,
die ununterbrochen erfahren, dass sie nichts zählen,
qui font sans arrêt l'expérience du fait qu'ils ne comptent pas,
da muss ich hinkriegen.
Il faut que je parvienne à ce qu'il compte, justement. Quand j'écris un essai,
s'il
n'est pas bon, je me suis juste planté, quoi. Ouais, les gens vont penser que je suis nul, mais ça s'arrête là. Non, si j'écris un mauvais livre, je perds de la crédibilité, de la reconnaissance. Mais si j'écris un mauvais reportage,
was im Kongo oder was im Irak oder was in Kolumbien passiert.
Ja, les gens ne croiront pas ce dont je dis que ça se passe au Congo, en Irak ou en Colombie.
Das heißt, die Last des Scheiterns.
C'est que là, le poids de l'échec est très différent.
Es fällt mir viel leichter, sozusagen einen schlechten Essay zu schreiben,
eine
schlechte Reportage.
Je peux vivre beaucoup plus facilement avec le fait d'avoir écrit un mauvais essai qu'un mauvais reportage.
Mais quand on vous écoute, on se dit que puisque vous êtes aussi reporter de guerre, en fait, la philosophie paraît bien moins urgente, moins vitale, moins nécessaire que le travail que vous faites sur le terrain. Et pourtant, vous continuez.
Ja. Donc,
en quoi est-elle aussi nécessaire et vitale?
Ja, nein. Also, ich glaube,
oui et non.
Ich natürlich jeden Moment, den ich auf Reisen bin. Im Moment bin ich gar nicht auf Reisen, aber jeden Moment sonst.
Bien évidemment, dès que je suis en voyage.
Bin ich vor Ort als jemand, der philosophisch trainiert ist?
Je suis dans ces pays en tant que quelqu'un qui a étudié la philosophie.
Jede Situation, jeden Moment überdenke ich mit den Instrumenten der Philosophie.
J'appréhende chaque moment, chaque situation avec les moyens de la philosophie. J'ai étudié l'éthique du discours chez Habermas et chez Labenhabim. Je suis, pour ainsi dire, entraîné au changement de perspective.
Die unterstellen auch immer, dass Leute rational ihre Perspektiven darstellen können. Und
on suppose toujours que les gens peuvent décrire rationnellement leurs perspectives.
Aber der Großteil der Menschen, mit denen man spricht,
la plupart des gens avec qui on parle dans les zones de guerre n'est plus en mesure de faire ça.
Eine Geschichte zu erzählen, die linear
n'est plus en mesure de raconter une histoire qui fonctionne de façon linéaire.
Glaubwürdig.
Une histoire qui paraît plausible.
Permanent die Begegnung mit traumatisierten
Menschen. On rencontre sans cesse des gens traumatisés.
Fordert die ganze Zeit mein theoretisches Instrumentarium heraus.
Et cela me sollicite sans cesse mes instruments théoriques, si vous voulez.
Und erweitert es aber eben auch.
Mais ça l'élargit aussi. Ça améliore la théorie.
Hoffe ich.
J'espère en tout cas.
Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'est notre présent? Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui?
Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'est notre présent? Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui? Trois questions que pose le philosophe Michel Foucault et que le philosophe en général, ou la philosophe que vous êtes, Caroline Emke, peut être amenée à se poser. C'est le philosophe, en fait, non plus dans la tête du philosophe, non plus dans l'atelier, mais dans la cité. Et vous venez de le dire très bien, comme quand vous avez aussi l'occasion d'exercer un autre métier qui est celui de journaliste. Quel rôle reste-t-il pour le philosophe? Peut-il s'engager? A-t-il un rôle à jouer politiquement? Où se situe-t-il dans la cité, dans le monde, le philosophe aujourd'hui?
Ich glaube, ich kenne niemanden, der Philosophie ernsthaft betreibt, der sich diese Frage nicht stellt.
Je crois que je ne connais personne qui s'occupe sérieusement de philosophie et qui ne se soit pas posé cette question.
Und ich glaube, es gibt auch niemand, der nicht mit dieser Rolle hadert oder mit der
Frage. Je crois qu'une personne qui n'ait pas de problème avec ce rôle-là.
Und ich glaube, für mich als in meiner Biographie.
Pour moi, dans ma biographie.
Am Anfang nur die Frage, ob ich in der Universität bleiben will.
Au début, il y avait la question de savoir si je voulais rester.
In der Universität.
À l'université.
Oder ob ich rausgehen will.
Ou est-ce que je voulais en sortir?
Und ich glaube, ich habe mich in der Universität hat mir immer die Welt gefehlt.
Dans l'université, le monde me manquait.
Und in der Welt hat mir immer die Theorie.
Et inversement.
Und glücklicherweise Bücher zu schreiben ist eine Form.
Et bizarrement, le fait d'écrire des livres, c'est une façon de remettre les deux ensemble.
Aber ich glaube, dass wir im Moment in dieser speziellen historischen Zeit.
Je crois que en ce moment historique précis.
Eine ganz neue Frage auftaucht.
Il y a une nouvelle question qui se pose pour les philosophes.
Und das eine ist, wir erleben eine Zeit.
Et d'un côté.
In mehrfachen Hinsichten. Das eine ist.
Sous plusieurs angles.
Wir erleben eine Zeit, in der.
D'une part. Nous vivons une époque où l'antimodernisme est très fort. Il y a un mouvement contre les Lumières, anti-scientifique, que ce soit aux USA, que ce soit avec Trump, que ce soit avec Poutine en Russie. Il y a des attaques massives contre les systèmes de savoir, contre les discours scientifiques.
Auf die Errungenschaft der Aufklärung.
Sur les conquêtes des Lumières.
Wir haben eine Renaissance von dogmatischen.
Nous assistons à la Renaissance de la pensée dogmatique.
Heißt, ich glaube, das Schwierige für Wissenschaftler.
Et je crois que le plus difficile pour les scientifiques.
Methoden, den eigenen Anspruch in einer Weise verteidigen.
C'est qu'ils doivent défendre leurs propres méthodes et leur propre travail, ce qu'ils n'avaient pas été obligés de faire depuis très très longtemps.
Das ist das eine.
Ça, c'est un point.
Das andere, glaube ich, ist, dass über die Digitalisierung.
L'autre point, c'est qu'avec la.
Strukturwandel der Öffentlichkeit.
À l'ère numérique, il y a un changement de structure de ce qu'est l'opinion publique. Et
bei dem wir im Moment überhaupt gar nicht wissen, wo eigentlich Wissen distribuiert wird.
Et à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment où le savoir est distribué.
Und ich glaube, mindestens meine Hoffnungen, dass es soziale Medien emanzipatorische Subjektivitäten stärken.
Mon espoir, c'est que les réseaux sociaux, les médias sociaux puissent renforcer la subjectivité. Oui.
Das ist enttäuscht.
Mais ça a été déçu.
Ja, und ich glaube, dass Öffentlich-rechtliches Radio, öffentlich-rechtliches Fernsehen.
Je crois que les radios publiques, les télévisions
eine
publiques
enorme démokratische Aufgabe haben,
ont une mission démocratique de première importance.
Wirklich Wissen und Information zu verbreiten.
Ja, c'est de diffuser l'information et le savoir.
Und das aber, also ich jetzt als Autorin glaube auch, dass wir tatsächlich wieder Räume.
Je crois que, en tant qu'auteur, je crois que nous devons vraiment occuper des terrains, les théâtres, les écoles, les espaces publics.
Ich bin jetzt die letzten zwei Jahre nach dem Erscheinen von Contre la haine in Deutschland.
Depuis deux ans après l'apparition de Contre la haine en Allemagne, j'ai parlé en public beaucoup plus souvent.
Mit der Einschätzung dieser speziellen historischen Zeit.
C'est lié à mon appréciation de ce moment historique particulier. Je crois qu'il faut vraiment occuper des espaces publics et plus que des universités en tout cas.
Mais pensez-vous qu'un philosophe peut être médiatique? Qu'ils sont beaucoup critiqués, les philosophes dits médiatiques. Comme si les médias allaient galvauder le discours, comme si ça signifiait une absence de travail ou de profondeur. C'est pas évident.
So ein bisschen ist es ja so, wie man es macht, ist es verkehrt.
Oui, ça dépend comment on fait les choses, mais c'est.
Nein, man wird immer kritisiert für alles. Also wenn man
on est toujours critiqué. Si on reste vissé à son bureau, qu'on sort jamais, on a le reproche de la tour d'ivoire. Si on sort, on vous demande si vous travaillez parfois. Et je suis très sceptique par rapport à certaines formes de talk-show.
Bestimmte egomane Alpha
très sceptique par rapport à certains débordements égotiques de personnalité mais je parle pas de ça. Mais je crois que je reviens à ce qu'on disait au début, il s'agit de traduire. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de reconquérir des espaces où la raison peut régner.
Et
des espaces où l'on peut débattre de certaines questions sans tomber dans le dogmatisme. Il faut donner plus de poids et d'espace à ce genre qu'est la pensée, finalement.
Einerseits attaquiert wird von rechten Trollen.
Pensée qui est attaquée d'un côté par des trolls de droite.
Und andererseits von dummen, batzigen Talkshows.
Et d'autre part par des talkshows débiles.
On n'en fait pas partie ici.
Non,
vous me rassurez.
C'est pas une talkshow, un talkshow ici.
C'est un peu mon rêve, mais bon, c'est une autre question.
Non, je parlais de ces émissions politiques standards à la télévision.
Caroline Emke, que voudriez-vous qu'on retienne de vous dans votre postérité?
Ach du lieber Schreck.
Oh là là, quelle question.
Ich würde sagen, dass ich eine gute Freundin war und Musik.
J'espère qu'on dirait que j'ai été une bonne amie, que j'ai aimé la musique.
Aber das ist nicht mal was, hat Sarah Kane gesagt, dass sie wünschte, dass man von ihr erinnerte, und sie hat gesagt, that I was a good friend and that I loved music.
C'est Sarah Kane qui avait dit ça.
Un tout dernier questionnaire pour vous. Avant de se quitter en musique, évidemment, quelques questions auxquelles vous pouvez prendre le temps de répondre, mais répondre très rapidement aussi, une sorte de questionnaire chinois ou questionnaire de Proust pour apprendre à connaître ultimement votre caractère. Quel livre de philosophie n'avez-vous jamais fini?
Welches Philosophie?
Le Capital.
Le Capital.
Vous savez que c'est enregistré, hein, tout ce que vous dites.
Ok.
Suite à une réforme de l'enseignement, vous vous retrouvez face à des maternelles. Par quel livre de philo est-ce que vous commencez?
Sicherlich Platon, der Staat.
Platon, la République.
À 4 ans.
À 4 ans.
Maternelle et Kindergarten.
Ja, also es ist natürlich une Frage, wie man es dann vermittelt, aber ehrlich gesagt.
C'est la question de savoir comment on peut transmettre ça, mais.
Auch nicht so schlecht.
Mais c'est pas si mal.
Vous pouvez dîner? Avec trois philosophes.
Vous êtes philosophe, ça ne peut pas être musicien. Vous êtes philosophe, n'est-ce
pas? C'est vraiment des philosophes, c'est obligé, ça ne peut pas être des musiciens.
Okay. Vous mettre un musicien avec eux.
Svetan Todorov, Simon Weil et Foucault.
L'ironie socratique, l'austérité kantienne, l'angoisse de Schopenhauer ou la paranoïa de Rousseau. Quel est le meilleur défaut philosophique que vous choisissez?
L'ironie de Socrate.
Jardinage, sexualité ou marche à pied, quelle activité s'apparente le plus à la philosophie ?
Marche à pied.
Imaginez que le philosophe est une espèce en voie de disparition. Quelles mesures employez-vous pour sa conservation ?
Total diktatorisch anordnen, dass es in der Schule unterrichtet wird.
Oui, ordonner de façon totalement dictatoriale que ce soit enseigné à l'école.
Après toutes ces années d'études et de pratiques philosophiques, journalistiques et d'écrivain Karl Nemke, quelles leçons de sagesse pouvez-vous nous délivrer?
Also, ich denke noch weiter drüber nach, arbeite noch weiter, und sie kann mich in 20 Jahren nochmal.
J'y réfléchis, ça fait 20 ans que j'y pense et j'ai pas fini.
Je crois qu'aucun philosophe n'a jamais révélé une leçon de sagesse ici même. C'est peut-être ça être philosophe, savoir que la sagesse n'est jamais acquise. Merci beaucoup, Karl Nemke.
Merci à vous.
On se quitte en musique, une musique qui, je crois, compte pour vous, Keith Jarrett.
Yeah.
De vous, Caroline M., que les auditeurs français peuvent lire « Contre la haine, plaidoyer pour l'impur », traduit en français l'an dernier, ainsi que « Notre désir », qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous nous parlez d'un peintre.
Du peintre Gérard Fromanger, grâce à ce très beau livre de conversation Fromanger de toutes les couleurs qui vient de sortir aux éditions Gallimard. Et c'est au gré de celle-ci qu'apparaissent les questions esthétiques les plus essentielles. Qu'est-ce que peindre? Qu'est-ce que voir? Qu'est-ce qui fait qu'un regard est unique? Pour y répondre, une vie d'artiste n'y suffirait pas complètement, mais un peu quand même.
J'avais 20 ans, alors j'étais influencé par Giacometti. J'adorais cet homme, je trouvais qu'il était absolument extraordinaire. Bien. Je faisais des tableaux, j'étais persuadé que ça ne ressemblait pas à Giacometti. Mais quiconque arrivait devant disait, tiens, ben, c'est un jeune garçon qui fait du sous Giacometti. Mais moi, j'étais furieux, je disais, mais comment, mais pas du tout, c'est moi, etc. Ouais.
Comment Gérard Fromanger en est-il venu à regarder par lui-même et pas seulement à voir comme Giacometti, essence de la peinture, éducation de la vision, œil unique, la vie d'un peintre comme celle de Gérard Fromanger, de son désir dès l'enfance d'être artiste jusqu'à aujourd'hui, la question du destin de ses tableaux pourrait permettre de retracer la trajectoire d'un regard qui devient le sien. Qu'est-ce qui fait que je regarde et non pas seulement que je vois? Qu'est-ce que je regarde et non pas seulement ce que je vois et qui s'impose à moi, qui tombe sous mes yeux? Comment moi, je, comment Gérard Fromanger, mais aussi vous, nous, comment une personne apprend à regarder, c'est-à-dire à observer, à porter attention, à considérer par lui-même? Autrement dit, qu'est-ce qu'un regard et pas seulement un œil? La question est au fond paradoxale, le regard est-il vraiment une question d'œil? Eh bien non, c'est en fait plus une question de main, comme le dit Gérard Fromanger. L'idée est celle, je le cite, d'une adéquation entre l'observation et la main, et d'ajouter qu'un portrait, ce n'est pas un nez, une bouche, un front. Non, il ne s'agit pas du tout de cela.
Ce qui pour Gilles et pour moi formait, disons, une idée du réel, nous permettait de vivre tout simplement, c'est une idée très complexe, pas le bien et le mal, une complexité énorme de tas de paramètres qui font le réel. Par exemple, quand Gilles dit « qu'est-ce que c'est que la mer ?» et qui répond « c'est un chaos de gouttes ». Ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Et moi, ça marchait à fond avec l'idée que j'avais eue avec Prévert, qui disait, lui, « on ne se voit pas dans la mer ».
Alors, par Gilles, il faut entendre, je précise, Gilles Deleuze. À travers ces conversations de Gérard Fromanger, qui vont de Giacometti et de l'apprentissage de la peinture aux années 90, la guerre du Golfe et la crise de l'art, de mai 68 et ses nuits chez Castel à sa série Sans dessus-dessous de 2009, on rencontre ainsi toutes les figures qui ont marqué son regard ou avec lesquelles il a partagé une vision commune. Et on comprend ainsi, évoquant sa proximité avec Gilles Deleuze, que le regard n'est sûrement pas une question d'œil, mais plutôt une question de manière. C'est une manière d'approcher le réel, ce réel que l'on peut voir, sans manière pour le coup, mais que l'on peut aussi regarder sous différents angles, comme la mer par exemple. Alors pour certains, comme Gilles Deleuze, la mer, comme on l'a entendu, c'est un chaos de gouttes, mais pour d'autres, la mer, ce sont peut-être des vagues dont le mouvement est parfaitement ordonné, ou encore, c'est peut-être un ensemble d'eau salée. Ce qui est intéressant, c'est cette dissociation entre la vue et le regard, dont le deuxième serait subjectif, anglais, aurait un sens presque indépendamment de son objet, une poésie propre à celui qui regarde.
Et cette parole des poètes, mais ça de toute façon là aussi depuis l'école, depuis dès qu'on lit Rimbaud, dès qu'on lit Dubelet, Ronsard, c'est, oh, je me rappelle Guillaume de Machaut, Rudebeuf, c'est des gens extraordinaires. Je vous jure, quand on est gamin, ça se dit, ah bon, ça existe. C'est Villon, François Villon, taulard, voleur, voyou, artiste, ouais, des gens comme Jean Genet, vous savez pas. Ah c'est, oui, ça marque beaucoup, ça marque beaucoup. Ça fait des exemples, ça fait. Ça donne confiance. Puis ils ont été courageux. Ils ont été jusqu'au bout de leur destin, de leur folie, et de leur talent.
De poésie, la vie d'artiste de Gérard Fromanger n'en a pas manqué. Jacques Prévert est un de ceux qui apparaît le plus dans ses propos et dans son regard. Et c'est ce qui apparaît ici à travers ses pages. Tous ses propos sont autant de regards posés sur sa vie, son art, ses amis, sa peinture, sur lui. On en revient à ce paradoxe d'un regard sans œil, sans objet, et aussi d'un regard qui va vers l'autre, mais revient toujours vers soi. En témoigne encore une histoire de portrait qui m'a fait rire. Alors que Gérard Fromanger avait fait le portrait de Michel Foucault, celui-ci lui a dit « c'était terrible, c'est comme si je me regardais. Car il est peut-être facile de se voir, mais de se regarder avec poésie, idée, réflexion, c'est peut-être beaucoup moins facile. »
En tout cas, n'en déplaise à Schopenhauer, Gérard Fromanger n'a pas le cerveau particulièrement haut et large, comme ce qu'est le signe du génie Schopenhauer, et pourtant on peut parler de génie à son sujet. Merci de nous avoir parlé de ce livre.
Mais j'étais ravie de pouvoir en parler, c'est un très beau livre.
Et surtout, écrit par Laurent Grazelmer.
Alors, ce sont des conversations avec Laurent Grazelmer, et c'est paru aux éditions Gallimard, et ça s'appelle Fromanger de toutes les couleurs.
Très bon titre. Le livre et votre chronique sont à réécouter et à observer en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Merci particulièrement à Sharon Houry, ainsi qu'Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Isis Jourda et Marie Simon, Nicolas Berger qui a réalisé cette semaine, Emmanuel Morse-Duncan qui est à la prise de son aujourd'hui, et un merci tout particulier également à Bernard Mangiante qui a assuré la traduction. Pour écouter cette émission avec Caroline Emke, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.
Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions sur le réalisateur Miyazaki, celui qui a réalisé Ponyo sur la falaise, Porco Rosso, Princesse Mononoke ou encore Nausicaa. Eh bien, on en parlera la semaine prochaine, ce sera l'occasion de plonger dans son univers. On y parlera des rapports entre l'homme et la nature, l'homme et la technique, de l'enfance, des rêves. Bref, la semaine prochaine, nous philosopherons avec Miyazaki.